pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans les années 70, ils partaient faire du fromage de chèvre dans le Larzac. On les appelait les baba cool, les hippies. Ils mettaient des vestes à franges, du violet et sentaient le patchouli. Ils fuyaient la société de consommation, le productivisme et vivaient en communauté. Plus tard, au début du siècle, ils sont devenus décroissants, autonomes, voire zadistes. De manière différente, ils recherchent tous une autre voie, une façon de vivre repensée, d'autres modes de subsistance. Certains se définissent désormais comme des réfugiés climatiques et cherchent les scénarios possibles de modes de vie futurs en lien avec le changement climatique et la fin des hydrocarbures. D'autres essaient de penser à des modes de vie simplement décorrélés du travail, comme le journaliste anglais Tom Hodgkinson, qui a fait le tour du monde avec son livre « Comment être oisif », ou encore l'historien néerlandais Rutger Bregman, qui a popularisé la notion d'utopie réaliste. Il y défend, par exemple, la semaine de 15 heures, l'ouverture très large des frontières aux migrants, et surtout le revenu d'existence ou revenu universel. D'autres, enfin, adoptent des modes de vie si radicaux qu'ils ressemblent vraiment à des scénarios d'anticipation écologique, comme la famille Jordan que nous rencontrons aujourd'hui. Dans leur vie d'avant, ils ont parfois vécu dans des très grandes villes, comme la fille qui était entraîneuse de chevaux à Los Angeles et s'est mariée avec un New-Yorkais, ou l'autre jeune fille qui était cuisinière dans un restaurant à Paris. Ils vivent à présent en Centre-Bretagne, dans une ferme du Moyen-Âge, et considèrent justement le Moyen-Âge comme un âge d'or de l'humanité à retrouver. C'est le troisième épisode de cette nouvelle saison du journal breton d'Inès Leroux, venue s'installer elle-même en Centre-Bretagne pour enquêter sur l'agroalimentaire breton, mais qui s'est trouvée vite passionnée par ces déserteurs de la société active qui arrivent là et se lancent dans une nouvelle vie centrée autour d'une agriculture vivrière, d'échanges avec leurs voisins et d'implications bénévoles diverses. On les écoute donc jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Ce récit, bien sûr, est signé Inès Leroux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
La première fois que j'ai vu Anne, c'était sur le marché de Rostrenin. Un village du sud des Côtes d'Armor où se retrouvent, une fois par semaine, tous les petits producteurs du coin et toutes les personnes les plus alternatives des alentours.
Bonjour.
Ça y est, j'avais un GPS.
Ah, avec un GPS, tout est facile. Bonjour.
Anne prenait un café avec une dizaine de personnes habillées de noir qui réfléchissaient sur la fin du monde. J'avais l'impression d'être dans un
Bonjour.
Film de science-fiction.
Inès.
Jean.
C'est beau, dis donc.
Ah, si, si, vous arrivez à la fin du monde.
C'était la plus âgée du groupe.
Et le potager aussi.
La plus élégante. Chevelure blonde et rouge à lèvres rouge vif.
Quand mes filles sont arrivées, on a cultivé de l'autre côté et donc voilà, on s'étale.
Elle m'avait contactée quelques mois auparavant. Elle voulait me parler de sa famille et de leur vie en autonomie. En l'écoutant, j'ai eu l'impression d'entendre un scénario d'anticipation écologique.
On vit presque en autarcie. On a très peu de frais, en fait. Hein. Bon, j'ai des abeilles. L'an dernier, elles ont produit 80 kilos de miel.
Quelques jours plus tard, je me suis rendue dans leur petite ferme à Pluerdut, à 40 kilomètres de là.
On achète trois fois rien.
Elle y vit avec son mari, leurs deux filles et leur gendre.
En fait, on arrive à nourrir les cinq personnes sans problème.
Six,
oui. Voilà.
Morgane,
oui, il est à mi-temps, lui.
À part Morgane, l'un des gendres, ils sont tous sortis de la vie dite active, du salariat, et ils vivent avec environ 2000 euros par mois pour 6.
Ah oui, il fait trop froid, là. C'est horrible. C'est horrible. Mais ce qui est le pire, c'est que c'est très sec. Trop sec. On est dans la sécheresse, là. Ça fait 3 ans que ça dure. Ça va, c'est de pire en pire. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que les arbres finissent par mourir. Oh, je sais pas trop où on va, mais on y va. On va vers la fin. Vers la fin du monde.
Vous pouvez me rappeler votre prénom ?
Jean. Moi, j'ai pratiquement pas de revenus. Une toute petite retraite, 280 euros par mois. Et heureusement que ma femme a une bonne retraite, ce qui nous permet d'aider nos enfants. J'étais officier mécanicien dans la marine marchande. J'étais formé comme technicien, moi. J'étais un ouvrier. Et puis ensuite, j'en avais marre. Moi, j'ai du mal à supporter l'autorité, quelle qu'elle soit. Donc, je me suis mis à mon compte. J'étais dans la reconstitution d'armes médiévales. J'étais forgeron et j'ai terminé ma vie comme ça.
C'est assez marrant parce que les gens me demandent souvent, ça fait pas très longtemps que mes filles vivent ici, et voilà, et puis c'est quand même des adultes, comment ça se passe, vous chamaillez jamais, et en fait les choses se font toutes seules. J'en vois une qui prend le balai, ou Hélène va dire je fais le feu alors que son père avait l'intention d'allumer le feu, ça se fait tout seul. Je fais la cuisine, ou alors je descends, Hélène a entamé la cuisine, ou Marie a eu envie de faire des lasagnes, et donc ça c'est magique, hein.
Du coup, c'est vous qui apportez l'argent pour
oui,
la famille.
Mon mari a une toute petite retraite. Moi, j'ai une bonne retraite de fonctionnaire, de prof. 2 500 € par mois. Donc, on vit essentiellement sur ma retraite.
Et vous étiez professeur de quoi?
De lettres en collège-lycée français. Donc, j'ai deux fils. L'un habite dans la région de Bordeaux, l'autre dans les Cévennes. Et de temps en temps, je les dépanne. Donc ça fait des petites coupes dans le budget mensuel. Bon, je mets régulièrement 1 000 euros de côté. Donc ça veut dire qu'on vit avec 1 500 par mois, 5. Voilà. Moi, je fais beaucoup la cuisine parce que je suis vieille et que les efforts physiques me coûtent. Maintenant, je vais quand même avoir 75 ans. J'étais pas une femme d'intérieur, mais j'ai toujours aimé faire la cuisine. Toujours, toujours. C'est un de mes dadas. Alors, comme on s'est beaucoup occupé de civilisation médiévale, mon mari et moi, puisque Jean était forgeron, mais d'armes et d'outils du Moyen-Âge. Donc j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué la cuisine médiévale. Pour le public, dans des fêtes médiévales, en démonstration, je faisais la cuisine. Mais là, je m'affranchis. Hein. Je ne me contente pas de cuisiner des choses... qui sont historiquement exacts, mais c'est très amusant parce que c'est un défi. Voilà, voilà. Donc là, c'est un peu le branle-bas de combat parce qu'Hélène fait ses bijoux, là, vous voyez. Donc elle fait des bijoux en argent. Elle a appris la bijouterie au Mexique. Elle a longtemps vécu au Mexique. Donc l'une en Californie, l'autre au Mexique, vous voyez. Là, voilà, elle a sélectionné quelques coquillages.
Hélène est dehors, elle va peut-être partir dans les bois. Alors, si vous voulez y aller...
J'y vais.
Oui, elle est là, sous la pentille.
Et voilà Hélène, qui est bijoutière, cuisinière, charpentière.
Et bûcheron.
Elle est avec une tronçonneuse?
Oui.
C'est la reine de la tronçonneuse.
Bon, ben, allons-y.
Nous, on se chauffe qu'au bois. Donc avec peu de feu, on peut réchauffer toute la maison. Et ce qui compte, c'est la qualité du bois. On prend que les bois tombés pour faire du feu. Après, le bois de construction, c'est autre chose. Et quand il fait sec et qu'on se le sent, on emmène l'âne. Et c'est lui qui nous ramène les bois. Puis c'est mieux qu'un tracteur, il peut aller n'importe où. Mais c'est quand même le printemps et l'automne, je trouve, c'est les moments les plus enchanteurs dans cette forêt. Je viens tous les jours et tous les jours je vois des choses différentes. Par exemple, ces rochers là, on croirait que ça a été construit par la main de l'homme. Ça on dirait un petit château. Donc c'est par ici que j'avais repéré un bon arbre bien mort, où il reste juste la souche. Voilà, un chevreuil. Tous les jours, en ce moment.
Il y a beaucoup de chevreuils.
Beaucoup. Puis là, c'est la saison des amours, donc on les entend parfois se battre, on les entend crier. Du coup, on est chez eux. Quoi. On va les déranger un peu avec le bruit de la tronçonneuse, mais ce sera rapide. Ah, ah, ah. ça devrait être faisable. Des fois, les gens me voient, je suis pas très carré, quoi. Ils me disent « Ah, tu fais du bois !» Ils veulent pas y croire, parce qu'on imagine toujours que c'est un gros balèze qui va faire du bois. Ben non, réellement, une femme peut faire tout ce qu'un homme fait. Peut-être plus lentement, mais je dirais avec plus de résistance, finalement. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des travaux masculins et des travaux féminins. Voilà, c'est pour moi l'homme du futur, il est capable de programmer un ordinateur et de se démerder dans la nature. On s'imagine qu'il faut de la force, pas forcément. Voilà, on va rouler. On peut travailler au moindre effort. Ça, c'est un morceau très lourd. Je peux pas le soulever, mais je peux le bouger et trouver le point d'appui. Là, c'est pas mal. J'ai 40 ans, j'ai vécu pas mal de temps en milieu urbain, parce que c'était là qu'il y avait du travail, c'était là que c'était pratique. Et ça fait une dizaine d'années que je suis dans le centre-Bretagne, et je suis très attachée à cette terre. Je travaillais comme cuisinière, donc j'étais habituée à un rythme. Et je me suis mis à travailler au jardin avec mon père, retourner la terre, et il me disait « Mais Hélène, demain il fait jour, c'est pas la peine de travailler aussi vite. » Du coup, j'essaie d'apprendre à prendre le temps. Et on a des journées, pour moi c'est le paradis, parce qu'on a des journées qui sont à la fois productives et créatives, et à la fois actives et contemplatives. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on va s'arrêter, écouter les oiseaux. Il n'y a pas de temps de la montre, c'est le temps du soleil. J'ai jamais eu de relation fusionnelle avec mes parents, c'est au contraire, c'est à partir de mes 30 ans que j'ai commencé à les connaître comme personne. Vu que j'avais l'occasion, n'ayant pas moi-même d'enfant, l'occasion de passer du temps avec eux, de discuter avec eux et de vivre avec eux comme avec des amis. Du coup, c'est vraiment une chance.
Parce qu'adolescente, ça se passait comment ?
Adolescente, moi j'avais la sensation qu'il fallait surtout pas faire de vagues. Ils étaient dans un stress terrible, surtout ma mère. Du coup, je filais doux. J'attendais que ce soit l'heure de m'en aller. C'est étonnant. Adolescente, je rêvais que d'une chose, c'est l'équité. Et maintenant, je suis avec eux, je suis bien.
Et vous travaillez combien d'heures par jour chacun ?
Ça dépend, mais je dirais qu'en moyenne, on doit travailler peut-être 4-5 heures. Après, évidemment, il y a des périodes où on va travailler plus, comme le printemps. Hein. Il y a les semis, retourner la terre, feuiller le jardin, ramener du bois. Mais en général, ce que j'aime, c'est qu'il y a une variété d'activités. Je ne suis pas pendant 6 heures à faire la même chose. Je vais faire du bois pendant 2-3 heures, après peut-être un peu de jardin, ou un peu de détente, ou un peu de lecture, après peut-être 5 heures de bijouterie. Je ne fais jamais attention à l'heure, en fait. C'est les repas qui me ramènent à la réalité du temps passé. Du coup, le repas, c'est le moment où on se retrouve. On fait tous les repas ensemble.
Vous avez besoin à peu près par mois de combien d'argent ?
On peut dire qu'avec 100 euros par mois, j'ai suffisamment. Quelques denrées à la Biocoop, mon tabac, et le reste, c'est les légumes du jardin. Il y a deux ordinateurs dans la maison. Un qui est utilisé par ma mère essentiellement, l'autre qui est utilisé par mon beau-frère, et moi, je vais assez rarement sur l'ordinateur. Et alors, j'ai un téléphone à carte, parce que j'ai pas envie de me sentir enchaînée. Le crédit et tout ça, ça me fait un peu peur. Les ponctionnements automatiques. Donc j'ai un petit téléphone de l'âge de pierre dans lequel je mets du crédit quand j'ai besoin d'appeler. Alors les vêtements, on a un truc génial dans le coin, c'est une jeune femme qui récupère énormément. Elle travaille chez Emmaüs, elle fait des marchés et elle a un hangar plein de toutes sortes de vêtements, vêtements pour bébé, vêtements de ski, vêtements vintage, vêtements neufs, vêtements de travail. Donc du coup, quand on a besoin de vêtements, on va chez elle, et avec un sac poubelle plein, on paye 10 ou 15 euros et on a de quoi se vêtir pendant des mois. J'ai des petites économies, il me reste encore de l'argent de mes travaux en restauration, donc ça remonte. Ce que j'ai pas, c'est de mutuelle. J'ai juste la sécurité sociale et encore, je suis même plus à jour.
Donc pas de RSA, pas de mutuelle.
Voilà.
Et pas de sécurité sociale à jour.
Voilà, et pas de voiture. Moi, j'ai pas de voiture, donc avec un vélo ou une mobylette, c'est parfait pour aller voir des amis à 30, 40 km.
Venez vous réchauffer.
Tiens, je vais rentrer.
Alors, la forêt. Dehors. Elle est belle.
J'ai entendu un chevreuil.
Qui faisait... Ah,
ah. Enfin, son petit aboiement. Là.
Donc, on va manger dans un quart d'heure. Et là, on sera au complet, c'est-à-dire Marie va revenir de sa petite expédition cheval et mon gendre qui est en train de sculpter là au dernier étage des petites figures féminines, très belles, des petites figures comme ça de cette taille, va descendre et lui, il comprend le français, il comprend ce qu'on dit, mais il ne parle pas français. Donc il est américain, il est new-yorkais, ils se sont connus en Californie, ma fille et lui, et... Ils sont arrivés en Centre-Bretagne il y a bientôt 3 ans. Lui, handicapé, il a eu un accident quand il était jeune. Il a fait une chute dans le métro et le métro new-yorkais lui a coupé les jambes. Il n'a pas de jambes. Mais il est normalement très, très agile. Et là, il est un petit peu dans sa tour d'ivoire. Je vous en prie. Donc, une chambre, la chambre d'Hélène. Voilà. Je vous montre la plus belle chambre.
La vôtre ?
Oui. Voilà, avec beaucoup de souvenirs de famille, beaucoup de vieilles photos de ma famille côté maternel. Grande bourgeoisie allemande du nord de l'Allemagne. Au XVIIIe siècle, cette jeune femme et son mari étaient des amis de Wolfgang Goethe.
Et c'est qui par rapport à vous? C'est vos arrières
Arrières, alors très exactement, arrière, grands-parents. Donc, trisaïeul. Bon, c'est fin XVIIIe, hein, vous voyez. Voilà. Au-dessus, là, vous avez encore 2 pièces mansardées, laissées chez mon gendre. Vous voyez ?
Voilà, c'est un peu étroit.
Ça, c'est les combles où voilà, vous habitez.
Nous, on habite là, et là, c'est le garde-manger.
Donc, vous, vous êtes Marie.
Voilà, la grande sœur. Alors, où sont ces petites femmes ?
Donc là, vous montrez les sculptures de Bill, voilà, votre compagnon.
Voilà, de mon mari. Voilà, il y a une petite allongée, une autre qui prend un bain de soleil, et une troisième. Voilà, 3 petites bonnes femmes. Et ensuite, il y a un peu un style différent. Il y a une petite guerrière avec une épée qui est en position de méditation.
Vous venez de New York, c'est ça ?
Né à New York, oui. J'étais en vacances en 2004 à Los Angeles et j'ai rencontré Bill par l'intermédiaire d'amis communs. Alors là-bas, moi, on travaillait tous les deux ensemble en construction, donc peinture décorative, plancher, carrelage, peinture de maison, etc. Et puis en plus, j'étais entraîneur de chevaux le week-end ou en soirée, donc j'avais un peu de boulot. C'est un peu la loi là-bas, il faut avoir au moins 2 boulots pour s'en sortir. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir ici ?
Ma famille me manquait beaucoup. Voilà. Et puis bon, aussi très attirée par le fait de pouvoir vivre de notre propre production, d'avoir un jardin, d'être près de la forêt, près des animaux. Donc pour Bill, il y a la barrière de la langue. Il y a l'adaptation climatique qui est pas évidente, parce que bon, il est amputé des 2 jambes, donc il a des douleurs fantômes qui sont aggravées par l'humidité et le froid. Et puis bon, habiter chez mes parents, ça doit pas être toujours évident, même s'ils sont sympas et qu'ils sont accueillants, voilà, bon, il y a quand même... Alors par contre, il a le temps et l'inspiration qui lui est revenue, et ça c'est très bien, et je suis très heureuse qu'il s'y soit remis, parce qu'elles sont très belles. Il a pris tout seul. Bon, quand il était très jeune, donc à la fin des années du lycée, il avait reçu une bourse pour rentrer à l'école des Beaux-Arts de New York quand même. Et à l'époque, il était très jeune, ses parents ont refusé, et donc du coup, il était un peu frustré. Et par la suite, plus tard dans sa vie, il a persévéré par lui-même et a appris un petit peu tout seul
Boîte.
It was about, you know, like the...
It's difficult. The wheelchair.
Voilà, avec le fauteuil roulant et ne pas avoir de jambes, c'est très difficile. Ce qui s'est passé quand il est arrivé ici, qui a été très difficile, c'est qu'il a réalisé de plus en plus à quel point ses jambes lui manquaient. Parce que quand il était jeune, plus jeune et qu'il avait encore ses jambes, c'était un grand marcheur des bois. Et donc là, d'avoir tous ces bois et toute cette forêt à portée de main et à pas pouvoir aller bien loin, c'est très difficile. Quand il fait humide et boueux, c'est pas évident.
Il peut marcher avec ses bras.
Oui, c'est comme ça qu'il monte les escaliers, comme il y a quand même deux étages à monter.
Il y a des gants.
Voilà, des gants, pantalons en cuir, parce qu'avec les bocs de châtaigne et les ronces, il vaut mieux. Quand on est arrivé, là, la pâture des animaux était envahie de fougères et de ronces. C'est Bill qui les a coupées. Qui débroussaille, à la faucille, tout bêtement.
And in the city, we would go out dancing, and I was taking martial arts.
Voilà, quand on était plus près de la ville, bon, on sortait, on allait danser. Il allait à un dojo de kung-fu, arts martiaux.
Et on peut faire du kung-fu sans jambes.
Oui.
Comment on fait?
Ah oui, c'était très. En fait, la chaise est utilisée comme une arme. Sur les tibias, par exemple, ça peut faire reculer quelqu'un. Et ensuite, il sautait de la chaise et c'était un adversaire redoutable.
It was fun.
Tu me ramènes la pierre à aiguiser, s'il te plaît.
Là, donc papa vient de tuer un des lapins de notre repas de Pâques. Et il y en aura un deuxième parce qu'on va être nombreux et ce sont des lapins qui sont relativement jeunes.
Ouh, mais là,
il est beau, hein, il est bien costaud déjà.
Un petit mal.
Ouais, il est bien costaud, il a des belles cuisses.
Ouais, il fait bien un bon kilo.
Nous, c'est vous le tueur de la famille.
Bah pour le moment, oui, mais j'espère bien que les filles apprendront. Hein. Parce qu'il faudra bien qu'elles survivent quand je serai plus là. Tuer un animal, c'est quelque chose de difficile. Quand c'est un petit animal comme ça, moi, la veille, je me mets en train sans problème. Mais quand c'est un animal plus gros, un mouton, un cochon, là, il me faut au moins 4 jours pour me mettre dans l'état. Bon, parce que le but, c'est enlever la ville le plus proprement possible. Ça, c'est toute une démarche de mise en condition, en évitant que l'animal soit conscient.
Et comment vous vous préparez ?
En y pensant, en respirant. Il faut être calme. Il ne faut pas avoir de poussée d'adrénaline. Parce que le but, c'est enlever la ville le plus proprement possible. Si j'arrive avec de la peur dans mon écurie en prenant le mouton, le mouton va sentir que je vais le tuer.
Il y en a qui les tuent en leur enlevant les yeux.
Oh, ça, c'est horrible.
Ça, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ce que je souhaite avant tout, c'est qu'ils ne souffrent pas. Qu'ils n'aient pas le temps de se rendre compte. Quand on tue un lapin, il faut éviter qu'il crie. S'il crie, c'est qu'il sait qu'il va mourir.
Bon, là, le deuxième que je vais prendre, là, lui, il sait que je vais tuer. Donc, il va peut-être crier. On sent la mort, hein. Toi, tu es en train de la sentir, là, la mort. T'as qu'à voir la tête que tu fais. C'est là qu'il faut aller très vite.
Vous mettez des gants?
Oui,
pour éviter les griffures. Parce que il se débat, les lapins, quand même.
Ah, celui-là. Ah, c'est la mère, ça. Celle-là, je la tue pas. Elle est trop belle. Allez, viens-toi.
C'est le sang qui coule.
Voilà, alors là il est déjà mort. Hein.
Vous l'avez tué avec votre main, en fait.
Oui, je lui ai donné le fameux coup du lapin. C'est-à-dire que je lui ai cassé les vertèbres cervicales.
Mais il bouge encore.
Ah ben ça, c'est les nerfs. Hein, il a saigné par le nez. C'est-à-dire que je lui ai éclaté le crâne. J'ai toujours tendance à frapper trop fort. Il m'est arrivé de voir la tête qui vole. De leur arracher la tête, quoi. Voilà, et là maintenant, je vais enlever la peau.
C'était un mâle aussi ?
Ah bah super.
Ouais. Tu prends les plus gros.
Oui. Est-ce que vous apprenez, Marie, à faire pareil ?
Bah je regarde, ça fait des années que je regarde. Je sais pas si j'aurai le courage un jour, mais comme on disait avec Hélène tout à l'heure, moi je le ferai pas à la main. Hein. Il me faudrait un maillet. J'aurais trop peur de pas taper assez fort.
Quand le vieux sera mort, c'est moi qui tuerai. Si j'ai faim, et qu'il y a autour de moi des gens qui ont faim, je pourrais tuer pratiquement n'importe quoi. Peut-être parce que j'ai travaillé en restauration et on s'est moqué de moi quand j'ai pas osé tuer le homard. Le homard à la plancha, alors on le sort de l'aquarium vivant et faut lui mettre le couteau là, le couper en deux. Tu le vois qu'il devient, il passe du bleu au rouge. C'est assez horrible, quoi. On me dit, ah, t'es cuisinière ou pas? Je dis, oui, je suis cuisinière, pas assassin, quoi. J'ai pas été formée pour ça. Du coup, j'ai refusé de tuer le homard. J'ai dit, non, moi, je peux pas faire ça. Je crois que j'ai changé dans ma façon de percevoir la cruauté de la vie, disons. Que cette cruauté qui est inacceptable, elle fait partie de la vie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit, si j'ai faim, je pourrais le faire.
On sait tous qu'on est, qu'on a un passage, et puis on meurt. Et après, ben, y a plus rien, c'est fini, quoi. On est mort. On retourne dans la terre. Moi, j'aimerais bien qu'on m'enterre sur mon compost. Comme ça, je me réincarnerai en carotte, en patate. Voilà.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal breton, deuxième saison et troisième épisode avec la famille Jordan, que nous remercions bien sûr, ainsi qu'Alice Sternberg. Cette émission était signée Inès Léraud et réalisée par Emmanuel Geoffroy. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire.